Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
C'est un ami d'enfance et ça m'a fait de la peine pour lui et j'espère qu'ils vont tenir le coup.
Première réaction de Nicolas Sarkozy ce matin à la condamnation de son ami Patrick Balkany. Patrick Balkany incarcéré depuis hier soir à la prison de la Santé à Paris. Ses avocats lui ont rendu visite ce matin pour lui apporter des vêtements. Nous serons sur place. Quant à Isabelle Balkany, elle est allée à la rencontre des habitants de Levallois-Perret sur le marché de la ville. Mobilisation cet après-midi à Nantes, 2 mois après la fête de la musique au cours de laquelle Steve Canisso est mort noyé. Mobilisation au lendemain de l'annonce de la mutation du commissaire qui gérait le service d'ordre ce soir-là.
Qu'il soit réaffecté quelque part, je trouve que c'est assez scandaleux parce qu'il y a quand même un jeune qui est mort, il y a une famille qui est en deuil. Cette personne aurait dû être sanctionnée plus sévèrement.
Toujours dans le journal de la mi-journée, la députée Europe Écologie Les Verts, Michèle Rivasi, qui part en guerre contre les cigarettes électroniques. Faut-il indemniser les donneurs de sperme et d'ovocytes? On posera la question au docteur Joël Bali-Chalard. Elle est présidente de la Société française de gynécologie. Elle est mon invitée à 12h45, alors qu'on est en plein examen de la nouvelle loi de bioéthique. Le journal des sports avec les Bleus battus par les Argentins en demi-finale du mondial de basket. La météo et record de chaleur en vue, nous dira Valérie Darmon. Et puis à 13h, on prolonge la tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Cette semaine, on parle du combat des familles de la Minerve pour retrouver ce sous-marin porté disparu en mer il y a plus de 50 ans.
Europe 1.
Il dit de lui que c'est son ami d'enfance et depuis hier, on attendait la réaction de Nicolas Sarkozy à la condamnation de Patrick Balkany qui dort à la Santé depuis hier soir. Et pour la première fois, l'ancien président s'est exprimé ce matin. C'était dans une librairie de Neuilly où il dédicaçait son livre.
Je pense à lui et c'est certainement pas quand les gens sont dans la difficulté qu'il faut les abandonner. C'est la règle dans la vie politique et je connais la règle aussi de la vie médiatique. Quand vous êtes dans la tourmente, il n'y a plus personne. C'est un ami d'enfance et ça m'a fait de la peine pour lui et ça m'a fait de la peine pour elle et j'espère qu'ils vont tenir le coup et qu'ils vont surmonter ce qui est une épreuve. Et peut-être qu'on peut les laisser tranquilles maintenant. Peut-être qu'on peut faire preuve aussi d'un peu de pudeur.
Nicolas Sarkozy ce matin à Neuilly qui réagissait à la condamnation de Patrick Balkany, réaction recueillie par Marion Gauthier. Patrick Balkany qui a donc passé sa première nuit en prison à la Santé à Paris et c'est là qu'il a reçu ce matin la visite pendant une heure de ses avocats, Victor Dolande.
Oui, effectivement, l'avocat Éric Dupond-Moretti est arrivé avec deux de ses associés, dont Antoine V, le visage fermé. Éric Dupond-Moretti avait une grosse enveloppe blanche sous le bras, remplie de dossiers pour s'entretenir avec Patrick Balkany. Ils sont ressortis au bout d'une heure et quart, aucun commentaire, ou presque.
On arrête le cirque et la meute, si vous voulez bien. C'est plié pour aujourd'hui.
On n'a rien à dire, rien.
Aucun commentaire, nous voulons protéger notre client, m'a glissé un des avocats de Patrick Balkany. Antoine V est revenu à la prison de la Santé quelques minutes plus tard pour y déposer cette fois des affaires à son client, des effets personnels bien évidemment pour Patrick Balkany.
Alors est-ce que l'on en sait plus, Victor Dolande, sur les conditions d'incarcération de Patrick Balkany? À quoi ressemble sa cellule?
Oui, Patrick Balkany a passé la nuit dans une cellule individuelle standard, 9 mètres carrés avec coin douche et toilette, petit frigo, télévision et téléphone fixe. Toutes ces conversations peuvent être écoutées, sauf celle avec son avocat. Sa cellule est située au 2e étage de la prison de la Santé, dans le quartier des personnes vulnérables, un quartier réservé aux détenus médiatiques. Alexandre Benalla y a notamment passé une semaine en début d'année. Les avocats de Patrick Balkany nous l'ont confirmé. Ils ont bien déposé une demande de mise en liberté hier qui sera examinée au plus tard dans les 2 mois. Mais l'espoir de ressortir paraît mince pour le maire de Levallois car un nouveau jugement l'attend le 18 octobre prochain pour blanchiment et corruption.
Victor Dolande devant la prison de la Santé à Paris. Alors si Patrick Balkany a été incarcéré hier soir après sa condamnation à 4 ans de prison ferme, sa femme Isabelle, elle est restée en liberté bien que condamnée à 3 ans de prison. Isabelle Balkany, qui est allée à la rencontre des habitants de Levallois-Perret sur le marché ce matin, qui a donné de ses nouvelles et des nouvelles de son mari.
J'ai pas dormi, je suis fatiguée, j'ai eu un retard à l'allumage ce matin, je vous le dis franchement, c'était compliqué, je m'inquiétais pour Patrick. J'ai été rassurée quand ses avocats m'ont téléphoné et m'ont dit qu'il avait dormi, qu'il avait pu prendre ses médicaments.
Vous allez aller le voir ?
Oui, mais c'est pas simple. Ce serait pas lundi, parce que ça va pas aussi vite. Ce serait dans la semaine, on ne sait pas quand. Maître Dupond-Moretti et Maître Vem ont dit que mon Patrick était tel qu'il est toujours, c'est-à-dire positif, droit dans ses bottes, voilà, et qu'il leur a simplement dit qu'il m'aimait et qu'il voulait qu'il me transmette ce message. Il a pu m'appeler et donc là, il n'avait qu'une minute. Alors on a été vite.
Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Vous savez, c'est surtout moi qui lui ai dit, je lui ai dit « Chérie, est-ce que tu as mal ? Est-ce que tu ne vas pas trop mal ? Les médicaments ?» Et il m'a dit « Non, non, voilà, le médecin est venu et il était tout à fait charmant. Et évidemment, compte tenu de mon état, il m'a immédiatement donné mes médicaments. »
Isabelle Balkany qui répondait au micro d'Hélène Terzian ce matin sur un marché de Levallois-Perret. À suivre, c'est cet après-midi à 14h qu'aura lieu un nouvel hommage à Steve Canisso qui est mort noyé dans la Loire il y a 2 mois lors de la fête de la musique.
Europe 1. Il est 12h37, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
Et une nouvelle mobilisation à Nantes cet après-midi, 2 mois après la fête de la musique au cours de laquelle Steve Canisso est mort noyé dans la Loire. Mobilisation alors que Christophe Castaner a annoncé hier la mutation du commissaire chargé ce soir-là de coordonner l'intervention des forces de l'ordre, François Coulon.
Un rapport en forme de mea culpa et la mutation d'un commissaire divisionnaire, deux bons points pour beaucoup de jeunes Nantais, à l'image de Delphine et Olivia.
C'est la bonne décision à faire. Ils sont dans la police, donc c'est pour sécuriser les choses. Il faut montrer que voilà, il y a des règles et quand on les respecte pas et que voilà, ça cause des morts. Qu'ils soient sanctionnés, oui. Comme ça donne un exemple, il faut arrêter ce genre de choses.
Déjà, je pense que c'est un premier pas, parce que c'est pas souvent que la police est sanctionnée par le gouvernement aussi ouvertement. Donc je pense que c'est une bonne chose, que l'erreur est vraiment officiellement reconnue. Donc merci pour ça. Après, le fait qu'il soit réaffecté quelque part, je trouve que c'est assez scandaleux, parce qu'il y a quand même un jeune qui est mort, il y a une famille qui est en deuil. Cette personne aurait dû être sanctionnée plus sévèrement, surtout que c'était totalement disproportionné.
Un manque de discernement qui conduit à un homicide involontaire, ça devrait se solder par une sanction beaucoup plus lourde, estime Lucien.
C'est assez dérisoire par rapport au fait que cette personne a mis en danger 15 personnes qui la sont tombées à l'eau, dont une qui n'a pas été repêchée et qui est morte des suites de l'intervention policière. Du coup, ça me paraît vraiment dérisoire de dire genre que cette personne doit être réaffectée à d'autres mesures. Juste, ce type-là n'a pas à être dans la police.
Un grand nombre de jeunes manifesteront cet après-midi dans les rues de Nantes pour dénoncer à nouveau les responsables de la mort de Steve. Nantes, François Coulon, Europe.
Et le début de ces manifestations à Nantes, c'est à 14h avec aussi plusieurs groupes de gilets jaunes qui appellent à un rassemblement national pour l'acte 44 de leur mobilisation. 44 comme le département de Loire-Atlantique. La députée Europe Écologie Les Verts, Michèle Rivasi, part en guerre contre les cigarettes électroniques après 6 décès suspects aux États-Unis. Cette semaine, Donald Trump a dit qu'il envisageait d'interdire ces cigarettes aromatisées qui sont très prisées des jeunes. Aussi pour Michèle Rivasi, le principe de précaution doit s'imposer avec la révision de la directive européenne sur le tabac.
Si on laisse libre cours aux fabricants, eux, ils vont toujours minimiser les risques. Là, on a une alerte sanitaire au niveau des États-Unis. Même si on n'utilise pas tous les mêmes ingrédients, il faut être beaucoup plus radical. Si il y a un doute sur les substances aromatisées, eh bien on les interdit de suite. Parce que ça touche à la santé des adolescents et aussi des gens qui veulent arrêter de fumer. Donc il faut faire beaucoup plus d'études que ce qu'on a fait au début. Il ne faut pas que ça soit considéré comme un bien de consommation banal et sans risque.
Michèle Rivasi, la députée Europe Écologie Les Verts, qui répondait à Marion Gauthier.
Europe 1, 12h40, Fabienne Lemoyle.
Et on le verra dans un instant, Marlène, avec Valérie Darmon. La chaleur est au rendez-vous ce week-end, ce qui ne va pas arranger les cueilleurs de champignons. Car figurez-vous qu'à cause de la canicule de cet été, comme a pu le constater Benjamin Peter, eh bien les paniers restent vides.
Pour le moment, on ne trouve rien. Il y a un manque d'eau, on le voit, c'est sec. Il faut qu'on descende vraiment dans les contrebas pour pouvoir trouver quelque chose.
Barbara arpente ce vallon complètement à sec et son panier reste désespérément vide. Elle connaît bien ce talus au cœur de la forêt, d'habitude très généreux. Mais cette année...
Il n'a pas assez plu. Il y a eu une pousse il y a une quinzaine de jours. Il a plu un petit peu, mais pas assez. L'année dernière, à cette époque-ci, oui, les paniers étaient pleins. Juillet, les paniers pleins même de girolles, de cèpes. Cette année, non. Très, très maigre.
Quelques oranges, une poignée de girolles et un seul cep de Bordeaux. Après une journée de cueillette, le bilan de Fabien n'est pas déshonorant, mais loin de ce qu'il ramène généralement à cette époque de l'année.
Il y a quand même beaucoup moins de champignons que l'année dernière en comparaison. Pour nous, dans les Pyrénées, il y a un moment ou un autre où, de toute façon, pour que le catophore pousse, donc le catophore, c'est la partie visible du champignon, puisqu'en dessous, c'est le mycélium, il faut de l'eau. Il y a un moment, il faut de l'eau. Là, on a eu que de la chaleur.
Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut se rattraper. Il suffirait de quelques bonnes pluies pour que les ceps sortent enfin de terre. Et ce qui se dit entre cueilleurs, c'est qu'après une année très sèche, on a généralement une année très abondante. Alors vivement l'été prochain. En Ariège, dans une forêt que j'ai promis de tenir secrète, Benjamin Péter, Europe 1.
Le journal des sports.
Avec Marie Guida. Bonjour Marie.
Bonjour.
On commence avec du football et un point d'interrogation aujourd'hui sur la présence d'un homme. Et quel homme cet après-midi sur la pelouse du Parc des Princes? Je veux parler bien sûr de Neymar.
Neymar va-t-il jouer? C'est la grande question du jour. Le prodige brésilien n'a toujours pas évolué sous le maillot parisien cette saison. La dernière fois, c'était le 11 mai dernier et après un transfert raté à Barcelone cet été, des déclarations dans la presse un peu litigieuses, son comportement n'a pas fait l'unanimité auprès des supporters. Ce que comprend l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel.
Je peux comprendre que tous les supporters ne sont pas heureux dans ce moment et avec la situation, mais on doit attendre. Mais il est un joueur pour PSG et je suis convaincu qu'il va donner tout pour nous aider. Il va retrouver son sourire. Après, on doit voir.
Thomas Tuchel au micro de Julien Froment.
La cinquième journée en tout cas, déjà commencée hier soir avec Lille qui s'est imposée 2-1 face à Angers, mais c'est plus compliqué pour les Lyonnais.
Oui, à 4 jours de son entrée en lice en Ligue des Champions, l'OL a enchaîné en Ligue 1 un 3e match sans succès à Amiens. Une mauvaise passe après un bon début de saison qui ne doit pas affecter le moral du groupe, comme le souligne le milieu de terrain Jeff Rennes-Adélaïde.
Nous sommes très déçus parce qu'on voulait remporter les 3 points et voilà, bien entamer la semaine qui va arriver. On avance petit à petit. On est des professionnels, on est des gagneurs. C'est sûr qu'on est déçus. Maintenant, voilà, on est un groupe. Il faut rester soudé. C'est une petite passe qui est un peu compliquée pour nous parce que voilà, ça fait trois matchs qu'on n'a pas réussi à gagner. Aujourd'hui, ça se passe un peu moins bien. Donc voilà, on continue à avoir des points. Il ne faut pas être paniqué. Il faut continuer à bosser pour remporter le plus de points possible.
Jeff Rennes-Adélaïde, le milieu de terrain lyonnais, au micro de Sébastien Boé.
Et donc, 4 matchs au programme aujourd'hui, Marie, en Ligue 1, qui sont à suivre, bien sûr, dans Europe 1 Sport à partir de 20h.
Oui, il s'agit de Dijon-Nîmes, Bordeaux-Metz, Montpellier-Nice et enfin Brest contre Rennes.
Du rugby également, c'est le championnat du top 14.
Avec au programme La Rochelle contre Toulouse à 15h30, Lyon-Brive, Clermont-Pau, Bayonne-Castres sera à 18h et enfin Bordeaux-Bègles contre le Stade français à 20h45. Et un mot de basket pour terminer, les Français éliminés hier en demi-finale contre l'Argentine, ils joueront demain leur petite finale pour la médaille de bronze à 10h contre l'Australie.
Eh bien, on leur souhaite cette médaille de bronze, ils l'auraient bien méritée. Merci beaucoup Marie Guida. Il nous reste à voir le temps de ce samedi.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et changement de programme par rapport au week-end dernier, fini la fraîcheur. On va même friser des records de chaleur aujourd'hui, Valérie Darmon.
Absolument Fabienne, et surtout demain d'ailleurs. Aujourd'hui, les températures sont déjà bien estivales et 5 à 10 degrés au-dessus des normales sur la moitié sud. C'est maximal qui évolue entre 21 et 33 degrés, donc du nord au sud, avec vos thermomètres qui vont afficher cet après-midi 33 à Gap, à Brive-la-Gaillarde et à Limoges, 32 à Bordeaux, à Niort et à Agen, 31 à Poitiers, à Marseille, La Rochelle et Toulouse, 30 degrés à Lyon et Clermont-Ferrand, 29 degrés à Nantes et Orléans. À Paris et Perpignan, 28 degrés, 26 à Beauvais, à Rouen et à Belfort, et enfin 22 à Saint-Brieuc. Et puis du côté du ciel, du sud de la Loire jusqu'au Jura, bassin aquitain, massif central, Languedoc-Roussillon. Là, le ciel est un petit peu plus voilé qu'ailleurs, où il fait grand beau et surtout ciel parfaitement bleu, avec un petit vent d'est sur le nord bien agréable.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, les députés ont donc donné leur feu vert en commission cette semaine à la PMA pour toutes les femmes, mais le projet de révision des lois de bioéthique est loin de se résumer à cette seule mesure emblématique. Faut-il par exemple indemniser les donneurs de sperme ou d'ovocytes? Faut-il aussi rembourser la PMA à toutes les femmes? On pose la question à mon invité dans un instant, le docteur Joël Bailly-Chalard, chef du pôle femmes-enfants au centre hospitalier des Quatre Villes à Saint-Cloud et président de la Société française de gynécologie.
Yeah.
Il est midi 49 et vous êtes bien sur Europe 1. Le journal de la mi-journée se poursuit maintenant avec votre témoin de la semaine, Fabienne Lemoyle.
Et je vous le disais, les députés ont donc donné leur feu vert en commission cette semaine à la PMA pour toutes les femmes, mesure la plus emblématique du projet de révision des lois bioéthiques dont l'examen devant l'Assemblée va débuter dans 10 jours. Mais on va le voir avec mon invité, cette future loi est bien loin de se limiter à cette mesure et les médecins attendent bien d'autres décisions sur la conservation des ovocytes ou encore l'indemnisation des donneurs. Bonjour Joëlle Belaïch-Allard.
Bonjour.
Président de la Société française de gynécologie et chef du pôle femmes-enfants au centre hospitalier des Quatre-Villes à Saint-Cloud. Vous-même avez été auditionné le 3 septembre par les députés. Déjà une question sur le climat qui entoure ce débat. 2000 amendements déposés, 2000, s'annoncent de nombreuses passes d'armes. Vous le redoutez ?
Oui, on le redoute un peu. C'est très très important comme sujet, c'est très complexe. Il faudrait avoir du temps pour expliquer. Et tous nos députés et tous nos sénateurs sont soumis à une espèce de course de rapidité. Et nous le regrettons un peu. On voudrait pouvoir tout expliquer. C'est pas simple comme sujet.
Et des passionnés, j'imagine, les débats. Alors les députés ont donné en commission le feu vert à la PMA pour toutes, mesure qui semble être acceptée par une grande majorité de Français quand on voit le tout dernier sondage IFOP qui dit que les deux tiers des Français sont pour la PMA pour les femmes seules ou en couple avec une autre femme. Un élargissement donc de la procréation médicale assistée qui amène d'autres questions, Joëlle Belaïch-Allard. D'abord celle du remboursement de la sécurité sociale. Ceux qui s'opposent à cette extension disent qu'on doit limiter ce remboursement à des causes médicales, aux problèmes d'infertilité. Votre avis ?
Je crois que ce n'est pas très, très important parce que c'est une goutte d'eau dans le budget de la sécurité sociale et que par souci d'égalité, le gouvernement a prévu que tout soit remboursé. Ça me semble assez juste finalement, même si ce n'était pas obligatoirement ce que nous, professionnels, nous souhaitions.
C'est un faux débat pour vous, qui ne se
pose
pas.
Oui, parce que c'est vraiment une somme qui est extrêmement minime. C'est un faux argument. Ce n'est pas ça le principal argument.
Alors l'autre question qui se pose, faut-il indemniser les donneurs de sperme pour les hommes ou d'ovocytes pour les femmes ? On le rappelle, la règle en France, c'est que le don est normalement anonyme et gratuit.
Alors c'est vrai que le don est anonyme et gratuit chez nous. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Il faut savoir que donner son sperme, c'est très noble, mais c'est relativement facile. Donner ses ovocytes, c'est lourd. Il faut avoir une stimulation de l'ovulation, des injections, des prises de sang, des échos, une ponction sous anesthésie. Et il ne nous semblerait pas anormal, à la grande majorité des professionnels, que une indemnisation, j'ai pas dit rémunération, soit possible. Après, si on le fait pour les ovocytes, faut-il le faire pour le sperme ou pour le sang ? C'est vrai que ce sont d'autres questions. Mais en tout cas, pour les ovocytes, il serait légitime de dire merci et d'indemniser des peines encourues les femmes.
À quelle hauteur ?
Autour de 500 euros, ça nous semblerait normal. En Espagne, les femmes touchent 1000 euros.
Si vous dites qu'il faudrait indemniser, c'est aussi pour favoriser le don d'ovocytes, dont on sait qu'il va être forcément en augmentation, la demande va être en augmentation si on ouvre un peu plus la PMA. Et là, on arrive à une autre question, Joëlle Belaïch-Allard. Je rappelle, présidente de la Société française de gynécologie, c'est le manque de donneuses d'ovocytes. Alors, est-ce que la question n'est pas de demander, de faire en sorte que toutes les femmes puissent conserver leurs ovocytes, justement ?
Alors,
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est principalement
aujourd'hui, c'est
quand on
possible.
A un cancer, qu'un voilà. traitement peut
altérer la fertilité, que c'est possible dans une quarantaine de centres en France. Si on faisait l'autoconservation, c'est-à-dire si les femmes, quand leur fertilité est encore optimale, autour de 35 ans, pouvaient conserver leurs ovocytes si elles n'ont pas encore fait leurs enfants. Et ça ne concernerait absolument pas toutes les femmes. Ça concernerait seulement celles qui n'ont pas rencontré celui, parfois celle, avec qui faire un enfant.
Pourquoi c'est important pour vous ?
Alors, c'est vrai que c'est très important pour les professionnels.
Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de la PMA pour
alors,
toutes.
Vous avez raison, parce que les associations des couples de femmes et les associations de femmes seules savent très bien se défendre. Je les soutiens, mais elles n'ont pas tellement besoin de l'aide des professionnels, parce que de toute façon, elles ont les bons arguments, elles se défendent. Pour l'autoconservation, les femmes ne savent pas que c'est un vrai risque, la chute de la fertilité avec l'âge, et qu'elles ont besoin, si elles n'ont pas pu faire leur enfant à temps, de pouvoir faire cette conservation. Actuellement en France, ça n'est possible, comme vous l'avez dit, que si on va avoir un traitement pour un cancer, par exemple. Ce que nous voudrions, nous, professionnels, c'est que dans tous les centres, publics et privés, et pas seulement dans les 40 qui font de la préservation pour cancer, ça n'aurait aucun sens, il y a 103 centres en France, que tous les centres, dans l'autorisation d'AMP, puisqu'on travaille avec un régime d'autorisation, soit inclus automatiquement l'autoconservation.
Pour vous, c'est important, Joëlle Belaïch-Allard, parce que ces femmes qui viennent vous voir justement en consultation, qui après 40 ans n'ont toujours pas eu d'enfants, c'est pas juste pour des convenances personnelles.
Alors, on pense toujours que ce sont des femmes carriéristes qui veulent pas faire leurs enfants à temps. Or, toutes les études scientifiques, toutes les enquêtes et puis la vie quotidienne, les patientes que je vois montrent que c'est pas ça du tout. Plus de 80% d'entre elles, ce sont des femmes qui n'ont pas rencontré à temps celui ou celle avec qui faire un enfant. C'est difficile, hein, les hommes veulent pas trop s'engager, ils sont pas tout à fait conscients de la chute de la fertilité avec l'âge. Et donc, le nombre de femmes seules qui disent « et moi je vois l'horloge biologique tourner, qu'est-ce que je peux faire ?» Aller en Espagne et payer 2000 euros. Non, c'est pas juste. Nous pouvons le faire, nous savons le faire, il n'y aura pas tant de demandes, mais toutes ces femmes-là, elles seront infiniment plus sereines et quand elles rencontreront quelqu'un, elles ne seront pas obligées de lui mettre la pression pour dire « tu sais, il faut qu'on fasse un enfant parce que j'ai 39 ans, si ce n'est pas maintenant, et que le monsieur se sauve. »
Parce qu'il y a effectivement une vraie chute de la fertilité.
Alors ça, on l'oublie trop souvent. Il y a une chute de la fertilité à 35, à 37, encore plus, et on voit trop de femmes de 40 ans arriver et tout ce qu'on leur propose, c'est le don d'ovocytes. Or, le don d'ovocytes, vous l'avez dit, il n'y a pas assez de dons d'ovocytes en France. Sauf que si les femmes autoconservées, déjà elles n'en demanderaient pas de don d'ovocytes si elles ont leurs ovocytes à elles, conservés, et en plus si elles ont la chance d'avoir fait leur enfant toute seule, ou toute seule je veux dire en couple, mais de l'avoir fait sans avoir recours à ce qu'elles ont autoconservé, elles pourront donner leurs ovocytes. L'autoconservation résoudrait le problème en grande partie de la pénurie de donneuses d'ovocytes.
Une dernière question, Joël Béali-Chalard, la question de la procréation médicale assistée post-mortem. Le gouvernement est contre. Vous dites quoi quand une femme se retrouve veuve avec un embryon qui a été congelé ?
Je trouve que ce qui est actuellement, c'est interdit de reprendre les embryons. La femme ne peut que les donner à un autre couple infertile à la recherche ou demander leur destruction. Dans la nouvelle loi, on va autoriser une femme seule à avoir un enfant. En quoi une femme veuve qui a des embryons qui viennent de son ancien conjoint ne pourrait pas les reprendre ? Ça nous semble inhumain, honnêtement. À partir du moment où il y a un changement dans la loi, il doit être beaucoup plus complet. C'est pas normal, c'est pas éthique, je dirais même, de ne pas l'autoriser. Alors, il faudrait pas tout de suite, pas quand la femme est sous le coup de mari qui vient d'avoir un accident de voiture, et ils ont encore des embryons congelés, qu'il y ait un délai minimum qui pourrait être 3 mois, 6 mois, un délai maximum qui pourrait être 2 ans, où la femme peut reprendre ses embryons si le conjoint a signé avant, et c'est ce qu'on demande tous, qu'il y ait une petite case, on fait signer beaucoup de choses, j'autorise en cas de décès ma conjointe à utiliser nos embryons.
Merci beaucoup Joël Béali-Chalard, je rappelle, président de la Société française de gynécologie, chef du pôle femmes-enfants au centre hospitalier des Quatre-Villes à Saint-Cloud, d'être venu échanger avec nous sur ce projet de loi de bioéthique qui arrive en examen dans l'hémicycle le 24 septembre prochain et on l'imagine avec énormément de débats et avec votre volonté d'être pédagogique à notre micro aujourd'hui, de dépassionner un peu ce débat et avec ces femmes que vous rencontrez au quotidien dans votre service. Merci beaucoup d'avoir été dans le studio ce midi.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Et vous le savez, on poursuit cette tranche d'information à partir de 13h avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. On va revenir sur le combat des familles de la Minerve pour retrouver le sous-marin disparu en 1968. 51 ans après, elles vont pouvoir se recueillir demain en mer sur le lieu où l'épave a enfin été retrouvée.
Bon week-end avec Europe 1. Europe 1.